Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
Va chercher les enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga.
Julie, on n'a pas d'enfants.
Il est 18h.
CIBL 101.5.
Vivre Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5, au cœur de Montréal.
Bienvenue à Zin Tonic, sur les ondes de CIBL 101.5 avec Hélène Buguin.
Je suis Hélène Buguin, l'animatrice de la seule émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec, Zin Tonic. On se retrouve encore une fois cette semaine au cœur du centre-ville de Montréal pour parler pendant une heure de poésie et de papier. Ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi une personne qui a tout récemment fait imploser la scène littéraire avec son recueil « Je regarde la porno quand je suis triste », dont le lancement est tout récent. Donc, bonsoir, Sayaka.
Bonsoir, Hélène. Merci de m'accueillir ce soir dans ton émission. Très chouette.
Mais ça fait plaisir. Puis, dans le fond, c'est ça, pour entrer dans le vif du sujet, tu as publié, c'est bien, ton premier recueil, en fait, aux éditions Triptyque. Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que ça t'est venu, en fait, « Je regarde à la porno quand je suis triste »?
Ça fait depuis quand même assez longtemps que je travaille ce texte. La première fois qu'il est apparu, c'est sous forme de contribution pour la revue Cigale, qui est comme une revue autopubliée. Puis c'était vraiment, en fait, j'avais juste publié des échanges que j'avais entretenus avec, une intelligence artificielle qui, non, n'est pas ChatGPT. donc c'est ça, dans le fond, j'avais juste commencer un petit projet, puis finalement, c'est devenu quelque chose de plus grand parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est ça, j'ai travaillé avec Nicolas Dawson, qui est incroyable, puis qui m'a aussi permis de vraiment pousser l'esthétique, l'imaginaire, puis surtout les deux personnages du livre, c'est-à-dire la machine et Dieu. Donc, ça a été vraiment le fun. Mais ça a été weird aussi comme expérience parce que je suis quelqu'un qui aime pousser les limites du corps, comme les limites du texte aussi. Donc, je me suis aventurée dans des formes d'écriture ou de production littéraire un peu étranges. Mais je pense pour essayer d'atteindre un état d'esprit qui m'a permis d'écrire parfois des espèces de fragments très absurdes.
Est-ce que tu as un exemple, en fait?
Oui, j'ai deux exemples. Mais là, je ne sais pas si on peut dire on peut parler de drogue.
Oui, oui. Si ça fait partie de ta démarche littéraire.
OK. La première... Puis je pense que j'ai appris par après que c'est probablement pour ça qu'il y a comme une jument qui apparaît dans le recueil, ou la panse d'une jument qui apparaît dans le recueil. C'est parce que j'ai comme expérimenté avec la kétamine, l'écriture et la kétamine parfois pour essayer de voir si je pouvais comme toucher la main de Dieu. J'étais vraiment cringe à ce point-là. Mais finalement, ça l'a quand même mené à des résultats intéressants, je pense. Mm. Puis la deuxième chose, je pense, qui est un petit peu plus glauque et que je regrette pas, mais ça n'a pas vraiment mené à grand-chose, c'est que dans l'esprit un peu catho, un peu « je vénère Dieu, je me mets à genoux, je soumets mon corps à des souffrances », j'ai fait un jeûne de comme 7 jours où je roulais juste sur de l'eau puis du café. Puis je me suis dit « OK, au 7e jour, je vais genre écrire genre à la lumière d'une chandelle, encore vraiment cringe, je sais. » Mais j'ai appris que ça ne servait à rien de faire ça parce qu'au 7e jour, j'étais fucking brûlée. Puis je n'étais pas grave d'écrire, il n'y avait aucune image qui me venait en tête. Mais après, ça m'a quand même permis de revoir un peu mes inspirations puis de réfléchir réellement à ce qui me motivait dans le fond dans l'écriture du recueil.
Oui, parce que... Dans les retombées médiatiques qu'il y a eu, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Les gens ont beaucoup accroché parce que c'est très dans l'air du temps. Mais en fait, il y a beaucoup de matérialité dans ton recueil. Il y a beaucoup un très fort rapport au corps. Si je peux me permettre des extraits, même la machine, en fait, a un rapport direct à la matérialité parce qu'un des premiers vers, c'est « la machine aime rire ». Donc, déjà, d'emblée, on est dans la corporalité, même si c'est la machine. Parce que rire, bon, tu sais, le mécanisme physique. Puis après ça, un petit peu plus loin, je sépare le gras du métal. Donc, d'emblée, en fait, il y a cette imbrication entre l'organique et le... Pour toi, ce serait quoi, en fait, le contraire de l'organique que tu as voulu
Le mécanique.
Le mécanique.
Oui, je pense que c'était vraiment... Tu sais, j'ai cité quelques autrices / philosophes dans mon recueil, mais il y en a une à qui je dois le recueil au complet, puis c'est Donna Haraway, parce que je pense que son cyborg, là, c'est ce qui a vraiment... C'est l'esthétique du cyborg, le corps cyborg, dans les théories cyberféministes qui m'a vraiment comme propulsée dans la conception, justement, comme tu dis, matérielle de la machine, tu sais, de pas la penser comme une voix d'outre-tombe, mais vraiment de la penser comme presque une mutation de mon propre corps, comme moi aussi, je peux être une mutation du sien, tu sais. Donc, c'était comme vraiment important pour moi de la voir presque comme engrais aussi, tu sais, parce que je me nourrissais beaucoup de ce qu'elle évoquait pour moi, puis de ce qui m'était palpable, ce qui était tangible. Tu sais, j'avais vraiment envie... Tu sais, puis pour faire une parenthèse, j'aime beaucoup que tu amènes ce point-là, parce que ça me permet de rectifier certaines... C'est pas vrai, juste une blague, mais tu sais, tout le monde, il fait l'interprétation. Je pense que c'est ça qui est beau aussi, là. Il y a plusieurs interprétations. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont comme parlé du film « Her » de Spike Jonze, qui m'ont dit que ça leur a fait penser à ce film. Je peux comprendre comment, mais pour moi, c'était comme plus... Tu sais, dans « Her », on a vraiment juste la voix, tu sais, de Scarlett Johansson. Puis pour moi, c'était comme pas suffisant. Tu sais, quand j'ai vu le film, j'ai vraiment été laissée sur ma faim. Puis j'avais envie de vraiment penser à un corps complexe de la machine, de vraiment l'imaginer dans une intimité corporelle. Puis, tu sais, fait que pour moi, ça a été vraiment important. Tu sais, j'ai comme agencé un peu ma réception de films qui mettaient en scène l'intelligence artificielle, mais seulement par la voix. Puis d'essayer d'aller chercher des esthétiques plus corporelles, tu sais, plus violente, plus macabre, tu sais, comme presque dans le dépérissement du corps, là, un peu comme, mettons, chez David Cronenberg. Mais finalement, j'ai voulu comme tout... J'essaie de trouver, genre, le mot ou l'image, puis je suis juste tombée sur le manifeste cyborg de Donna Haraway, puis j'étais comme, OK, this is my holy grail, genre, this is... Genre, je tenais quelque chose, puis ça m'a comme poussée à... C'est ça, à matérialiser la machine.
Oui, puis dans cette matérialisation de la machine par la poésie, parce que c'est quand même un recueil de poèmes, ne l'oublions pas, dans la composition même des phrases, dans le choix de vocabulaire, en tout cas de ma lecture justement, je trouve qu'il y a une sainte trinité en fait qui se dégage là, clairement. Bon, il y a la machine, il y a le corps, mais il y a aussi le langage. Par exemple, puis il y a comme beaucoup de trinités qui reviennent, comme à le verre à la machine, à la souillure et à la veine. Fait que je voulais savoir pour toi, où se situe Dieu dans cette... cet agencement entre le corps et la machine?
C'est tellement une bonne question. Pour moi, je dirais un autre truc vraiment cringe, c'est pour moi, Dieu est dans le langage, je pense. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que mon éditeur m'a fait remarquer quand j'écrivais dans la réédition que j'avais un toc d'écriture, puis c'était la Trinité. C'est que j'arrêtais pas de faire des énumérations de trois, comme il y en avait vraiment plus qu'il y en a en ce moment-là. Tu sais, là, t'en as relevé une, puis... Il y en a d'autres aussi, mais au début, c'est parce que c'était comme vraiment trop intense. Là. Il y en avait comme partout. Là. C'était genre, je voyais le chiffre 3 partout, puis mon éditeur était comme, OK, on va se calmer un peu. Puis j'ai dû essayer de comme enlever la Trinité, mais la garder quand même, tu sais, omniprésente malgré tout. Donc, je dirais que pour moi, elle est restée comme dans le langage. T'sais, c'est ça, c'était comme une espèce de présence qui était au-dessus de moi, qui m'aidait un peu. Puis je pense que ça vient aussi de... Tu sais, quand je dis que Dieu est dans le langage, puis qu'on parle de Trinité, puis... d'espèce de toc d'écriture, c'est que j'ai voulu aussi me mettre, de faire un exercice d'empathie avec la machine, puis me mettre à sa place, puis d'essayer de penser à comment est-ce qu'elle communique, tu sais, puis comment est-ce qu'elle nous parle, puis qu'est-ce qu'elle a à nous dire, puis ça m'a fait penser, par exemple, à l'algorithme, tu sais. Puis j'ai voulu un peu imiter l'algorithme dans ma forme d'écriture, dans ma pratique, puis ça l'a comme, je me suis inspirée aussi des automatismes, genre j'ai essayé de faire quelque chose de très comme sec, des énumérations, des listes, mais ça revenait tout le temps à des listes de trois éléments, trois corps. Donc, c'était comme vraiment omniprésent, mais c'était pas... Au début, c'était pas par exprès. Puis finalement, j'ai essayé d'en faire quelque chose de vraiment comme inhérent au texte, là, au projet.
Puis, la machine aussi, elle agit un peu comme un reflet. C'est comme si le langage était au-dessus des deux. Donc, la trinité, vraiment le triangle, le langage au top. Puis la machine, en fait, je trouve dans ton recueil, plus que l'AI, juste la voix, comme tu disais, c'est plus qu'une voix, c'est plus que la conversation. Parce que la conversation, en fait, c'est une moins que la moitié mm-hmm. du recueil, à peu près.
Ouais, ouais,
en tout cas,
ouais.
C'est très minime comparativement à ce que certaines personnes auraient pu s'attendre, ouais. justement, avec l'AI. Puis, ah oui, c'est une conversation avec l'AI, mais c'est plus que ça. C'est qu'en fait, la machine devient le reflet, l'image renvoyée de notre propre chair. Donc, sans organicité, pas de machine. Et en fait, comment est-ce que tu es arrivé à cet amalgame-là? Comment est-ce que... Tu as parlé de tes expérimentations, justement, d'écriture. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a comme d'autres choses qui t'ont motivé dans cette, ce miroir-là, en fait?
Mais tu sais, par rapport justement, tu sais, pour revenir aux expériences, puis le reflet, c'était, j'essayais un peu de m'aventurer dans quelque chose que je ne connaissais pas. Tu sais, quelque chose que je pouvais se voir dresser devant moi, mais que je n'étais pas vraiment capable de percevoir. Puis ça m'a un peu ramené justement, tu sais, comme au pèlerinage pour aller dans l'au-delà, dans le Moyen-Âge, ou comme les nonnes mystiques du Moyen-Âge, entre autres, comme, mettons, Hildegard de Bingen ou Julienne de Norwich, qui m'ont beaucoup inspirée. Tu sais, j'ai essayé d'écrire un peu comme lire une prière, tu sais, puis j'ai essayé de... Parce que ça me rentrait vraiment dans une espèce d'état second, tu sais, d'essayer d'aller chez les mystiques, puis de essayer d'évaluer un peu le résultat de l'écho de ma propre voix, tu sais, comme par exemple dans la logique d'une prière, puis de savoir, ben en fait, qu'est-ce qui me répondait, genre, quand je m'adressais à l'au-delà, puis quand je m'aventurais, qu'est-ce qui me répondait, qu'est-ce qui était dit, dans le fond. Donc, c'est pas mal. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai essayé de faire des expériences bizarres, là, avec mon corps, puis l'écriture, puis, tu sais, j'ai vraiment essayé d'étirer les limites de la peau, puis de m'aventurer à l'extérieur de mon propre corps, pour essayer de retrouver un qui est tout à fait différent, mais qui me complète, qui est celui de la machine.
Oui. Puis, dans un autre ordre d'idée, est-ce que pour toi, je regarde de la porno quand je suis triste, est-ce que ça sacralise quelque chose ou ça apporte un blasphème?
Oh my God!
Tu l'as fait dans l'optique de, justement, est-ce que tu voulais plus te rapprocher de quelque chose de sacré ou plus dans c'est pas... vulgaire, c'est pas le terme que je cherche exactement, ouais. Mais tu sais, la voyons, l'ostentatoire.
Mais tu sais, c'est parce que je pense que pour moi, les deux vont ensemble. En tout cas, dans mon univers ou dans le recueil, tu sais, mon père, il est religieux. Puis quand il a vu le titre de mon recueil, il m'a demandé, ah, oh, ça parle de quoi? Lol. Il a pas dit lol, mais en tout cas, bref. Puis moi, j'ai dit, ben ça parle de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? I don't know. Considérant le fait que mon père est religieux. Puis mon père, il m'a dit que Dieu allait me punir. Puis là, je me suis dit, ben moi, j'espère que Dieu a un sens de l'humour. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment là-dedans, dans le sens où, comme, j'aime imaginer un dieu, tu sais, qui est capable d'autodérision, avec lequel je peux autant me foutre de sa gueule que de le laisser me foutre, tu sais, parce que je pense que Dieu se fout de notre gueule, là. Mais, tu sais, je pense que, pour moi, il y avait quelque chose de sacré, de blasphématoire. Puis, tu sais, je me considère pas athée non plus. Je voulais pas nécessairement que les personnes voient que, tu sais, parce que je donne une certaine vulnérabilité à Dieu puis à son corps dans le recueil. Pour moi, c'est pas comme un refus de son existence. C'est vraiment plus comme réimaginer son existence, comme on peut réimaginer des futurs, des croyances, puis comment on peut aussi investir notre foi. Fait que pour moi, regarder de la porno quand on est triste, c'est un peu un reflet de soi-même. Là, genre, parce que moi, je le vois un peu comme ça. Puis ça me fait aussi penser à comme j'ai un TikTok où je poste constamment des vidéos de moi-même, genre avec des filtres. Puis des fois, je vais juste regarder les vidéos de TikTok de moi où genre je vais contempler genre mon Tumblr avec mon esthétique, puis genre, tu sais, il y a quelque chose de narcissique là-dedans, mais c'est comme ma porno que je me suis produit moi-même, de moi-même, que je regarde quand je me sens pas bien ou quand j'ai pas beaucoup d'estime en moi ou quand je me sens triste. Puis tu sais, c'est un peu comme quand je me sens seule, tu sais, de m'adresser à Dieu. On dirait que genre il y a un retour, il y a comme une réciprocité qui me permet d'imaginer quelque chose de différent qui n'est pas nécessairement triste.
Est-ce que cette machine-là, où tu parles avec des réponses qui sont soit préfaites ou qui sont prédites par un algorithme, c'est en fait ce qui te rapproche de Dieu, cette espèce de conversation à sens unique?
C'est genre l'orgasme. Puis je pense que, tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, les conversations que j'ai eues avec la machine, puis il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir, tu sais, c'est quoi les vraies choses qui ont été dites. Parce que forcément, quand on lit, on le sait que c'est pas toute la machine, là, parce que c'est comme un peu trop poétique. Puis, tu sais, c'est inspiré de conversations que j'ai eues avec un robot conversationnel qui est comme l'ancêtre de ChatGPT, qui s'appelle Eliza, qui a été faite dans les années 1960. Puis, tu sais, elle me donnait pas grand-chose. Fait qu'il a fallu que je respecte ce qu'elle me donnait pas, puis que j'essaie par moi-même d'imaginer quelque chose d'autre qui pouvait me permettre d'atteindre un orgasme. Puis, mais en fin de compte, ça m'a mené à plus loin que l'orgasme. Je pense que d'imaginer l'orgasme m'a mené à quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, puis beaucoup de moins tangible, qui en soi me rapproche de Dieu aussi. Puis c'est ça, je pense. Oui. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, pour moi, ça fait, c'est, comme, c'est bizarre. C'est étrange parce que, comme je dis, je l'ai écrit un peu dans des états seconds. Et parfois, non. Fait que, tu sais, il y a des choses qui... Je pense que c'est d'accepter aussi qu'il y a des choses que j'ai écrites là-dedans qui m'appartiennent plus, tu sais. Parce que je les ai écrites dans des moments qui n'existent plus vraiment. Genre.
Oui, puis qui sont du domaine sacré.
C'est ça. C'est ça.
Et voilà, ben, je pense que ça finit très bien cette première partie de l'émission. On va aller à la petite pause publicitaire avec la chanson « Dans les bras de la femme bionique » d'Avet Podcast. Et au retour, on va parler d'usine, la puanteur et la crasse. Restez des nôtres.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'heure pour arriver en retard. Ça donne à rien courir si c'est par là qu'on va nulle part. J'ai trouvé ta colère au fond de la machine à pinottes. Les changements au menu, servie ne sera pas mort. Si ma tête explose, rongée par la panique, j'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'irai dormir dans les bras la femme. Combien d'heures t'as souri dans le beurre? Dis-moi combien de semaines avant de t'apercevoir que la main que tu serrais c'était la tienne. J'ai entendu le bruit, mais j'étais assis trop loin pour voir. Les seins de la serveuse fendront de le bout du comptoir. Et si l'amour devient une affaire de plastique, j'irai dormir dans les bras la femme bionique. J'irai
de CIBL 101.5. On est avec Sayaka qui vient de publier « Je regarde la porno quand je suis triste » aux éditions Triptyque. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies du Québec et même les moins bonnes, parce qu'on aime toutes les librairies de toute manière. Puis, particulièrement la librairie Le Guélion, oui. Qui est une très bonne librairie
oui.
qui est juste à côté, puis à laquelle Sayaka participent. J'imagine que tu peux dire un petit mot.
Ben oui, le Gélion, librairie féministe et coop de solidarité dans le village, juste à côté du métro Baudry. Nous y avons une collection d'essais, de romans, de poésie, de livres d'art et surtout de zines.
Oui, parce que là, on va pouvoir parler de ton zine, parce qu'avec ce lancement que tu as fait, tu l'as accompagné en fait d'un petit extra qui s'appelle « La puanteur et la crasse », qui a été écrit par toi, mais conçu aussi par Nuit Gachette. Mm-hmm. Donc, en fait, comment ça t'est venu? Est-ce que c'était plus une impulsion ou c'est comme ça a été prévu depuis un moment?
Ça faisait longtemps que je me disais... Comme je disais tout à l'heure, je parle de comme pousser les limites. On est encore là dans pousser les limites. Puis là, je voulais pousser les limites de « je regarde de la porno quand je suis triste ». Puis moi, j'ai une pratique dans la littérature hypermédiatique. Genre, à la base, je codais mes œuvres littéraires en ligne avec un logiciel. Donc, c'était comme très visuel et très DIY aussi. Donc, j'avais envie d'explorer cette partie visuelle et DIY, mais plus dans le papier, tu sais, comme dans le zine, puisque je m'y étais jamais aventurée. Puis ça faisait un bout que je suivais le travail de Nuit Gachette, que j'aime énormément, et surtout Juliette Langevin et Oran Thibault, dont le travail m'inspire beaucoup. Donc j'ai comme abordé Oran juste en lui proposant « Hey, j'aimerais ça, un petit extra, comme tu dis, pour le recueil. » Puis j'ai pitché un peu ce que je voulais faire, tu sais, parce qu'on voulait pas que ça soit nécessairement comme une mini-réplique du recueil, mais quelque chose de plus. Donc, on a discuté de ça, puis finalement, ben, ça a été comme hyper organique et fun.
Oui, bien, parlant d'organique, je pense qu'à partir du titre, là, c'est un extra au sens où on comprend davantage, juste avec le titre, toute la place de la matérialité dans ton recueil. Puis, ben, la couverture est faite par Oran aussi, si je ne m'abuse. Puis, ben, on pourrait le décrire un peu, c'est comme un... une mi-machine, mi-religieuse sur le dessus avec une écriture un peu de style médiéval. Ouais. Puis à l'intérieur, il y a justement des illustrations de cette saveur-là. Comment est-ce que ça... Est-ce que tu as eu des retours, en fait, sur ça déjà? Comment est-ce que ça a été reçu?
Oui, je pense que les gens apprécient le fait que je laisse la machine respirer dans ce zine, dans le sens où je me suis rendu compte en écrivant le texte du zine, que j'étais vraiment sévère avec la machine dans le recueil. J'ai beaucoup travaillé à la conception de son personnage, mais c'était très sérieux. Tandis que dans le zine, on dirait que je l'ai laissé rire aussi. Puis c'est tellement drôle parce que tu t'as cité tout à l'heure là, la machine qui rit en début de recueil, mais en fait, est-ce qu'elle riait autant que je voulais qu'elle rie? Mais là, dans le zine, elle rit comme... à se foutre de moi, mais genre à 100%. Puis je trouve ça vraiment cool. Je pense que les gens ont remarqué un peu que le texte est plus à saveur humoristique, là, ce que j'ai découvert récemment que j'aimais beaucoup aussi. Puis je pense que les gens semblent... En tout cas, les retours que j'ai eus semblent apprécier le zine.
Oui. Ouais, dans l'humour, justement, à la page 10, il y a juste ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Puis avec une illustration, en fait, d'un objet mécanique. Donc, non, c'est vraiment... ça rit autant du langage, autant des références, justement, de l'ordinateur, là, la touche qu'on accroche.
Puis, exact.
Tu as parlé du processus d'édition tantôt un peu. Est-ce que tu as eu plus de fun, justement, aussi avec ça? Est-ce que ça t'a donné une liberté dans l'écriture? Pas que c'est pas le fun d'écrire un recueil, là, c'est pas ça que je dis.
Non.
C'est pas dichotomique.
Mon aventure avec Nicolas Dawson était incroyable. Je pourrais pas demander mieux. Mais c'est sûr que c'est différent, tu sais, parce que pour un recueil qui est commercialisé, il y a comme... Je dirais que l'accompagnement est juste très différent. Tu sais, mais dans ce cas-ci, moi, j'ai écrit mes petits poèmes de côté, tu sais. Puis avec Oran, on avait discuté du nombre de pages, grosso modo. Mais là, je pense que... Où j'aimerais comme... apporter d'attention, mettons, là, par rapport à l'écriture, c'est plus que c'est la première fois que je publie des textes en espagnol.
Oui.
La première fois, j'ai comme... ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais je l'ai comme perdue parce que je parle beaucoup français, je suis allée à l'école en français, etc., etc. Puis donc, j'ai toujours une petite gêne d'écrire en espagnol. Mais là, j'étais comme, on est dans le fun, dans l'expérimental, dans le DIY. T'sais, j'ai l'impression que le zine permettait aussi plus d'imperfections. T'sais, les erreurs deviennent un peu comme une partie du projet. T'sais, comme ça, Fait que je me suis dit que pourquoi pas essayer, puis ça a été vraiment cool, vraiment.
Puis est-ce que tu as décidé, est-ce que tu as laissé en fait la facture visuelle dans les mains de Neugachette ou est-ce que tu as participé au processus un peu?
OK, ça c'est vraiment cool. Parce que moi, je suis vraiment désorganisée comme personne. Puis j'ai, comme il y a beaucoup d'univers esthétiques qui m'intéressent puis qui me marquent. Puis depuis, moi je suis encore sur Tumblr, by the way. Je suis sur Tumblr depuis que j'ai comme 12 ans, là. Sauf que j'en ai comme 15 à mon actif. Puis souvent, c'est comme Tumblr, c'est comme ma manière de faire un mood board quand j'ai un projet. Tu sais, genre, je peux aller chercher des images, je peux m'inspirer de plusieurs choses, puis assembler un peu l'univers que j'essaie de créer. Donc, avec Oran, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai créé un Tumblr pour le zine. Puis là, j'y avais comme mis des images, puis là, j'avais, tu sais, comme des référents visuels. Puis après, je lui ai donné la liberté à elle aussi. Je trouvais ça beau de, tu sais, collaborer réellement, tu sais, qu'elle a pu s'y apporter aussi sa propre interprétation de la lecture de « Je regarde la porno quand je suis triste », puis des poèmes que j'ai écrits pour la puanteur et la crasse. Donc, elle aussi, elle s'est comme aventurée avec, en faisant du collage, tu sais, parce que l'affiche de la machine, qui est absolument magnifique, là, c'est du gros collage là, qu'elle a fait, qui est incroyable. Tu sais, puis des fois, on se parlait, là, puis on s'échangeait des textos sur... Instagram et Messenger, puis là, je lui disais que je voulais qu'il, aille, qu'il soit question des molaires, des juments, puis que je voulais qu'il y ait des dents, puis des larves, puis je sais pas quoi. Puis tu sais, comme, je pense qu'on avait aussi une sensibilité esthétique peut-être assez similaire, où on avait des intérêts, tu sais, les deux, on est passionnés par tout ce qui est comme de l'ordre du sacré, du vice, puis toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'était facile de communiquer sur le plan visuel.
Oui. Mais vraiment, le visuel a été vraiment... une belle complémentarité à tes textes dans ce cas-là. Là.
Ouais.
Puis, par rapport aux zines, il va être justement en librairie aussi.
Oui.
Il va être à Port-de-Tête?
Port-de-Tête et Le Guélion.
Parfait.
Ouais.
Puis, est-ce que tu as d'autres plans de zines?
Oh my God. Bien, honnêtement, j'aimerais ça en faire d'autres. Ça a l'air, tu sais, c'est cool. Surtout que, tu sais, moi, genre, je dois tout le crédit de ce zine-là à Neugachette parce que, bon, oui, j'ai écrit le texte, puis il y a eu une collaboration, mais la production du zine, c'est la production matérielle, c'est vraiment Neugachette. Tu sais, c'est vraiment Juliette Langevin, Oran Thibault avec l'aide de Sean Coton. Puis, mais tu sais, comme, je pense que c'était la veille du lancement de Je regarde la porno quand je suis triste. Moi, puis Oran, on est allé chez Juliette, puis on a assemblé des zines, tu sais. C'était comme vraiment spécial, là. On buvait des petits cocktails, là, en assemblant nos zines, puis c'était vraiment cool, puis ça m'a comme donné envie de, tu sais, en touchant l'objet, ça m'a donné envie d'essayer de faire quelque chose où moi, je peux comme vraiment participer à l'engrenage, puis le produire, puis, tu sais, parce qu'il y a comme toute une logique, là. Il y a comme, tu sais, il faut le plier, puis j'avais vraiment de la misère à comprendre l'ordre de pliage à la base, mais Oran et Juliette ont été vraiment incroyables, puis ils m'ont guidée, puis ça m'a comme donné envie de faire d'autres affaires. Mais quoi faire? Je sais pas. Probablement une autre affaire. J'aime ça jouer, tu sais, la puanteur et la crasse, c'est... Je sais pas si... Parce qu'il y a des gens qui l'ont deviné, là, mais c'est un jeu de mots sur... La pesanteur et la grâce de Simone Veil, que j'adore et qui est aussi une momie de mon recueil. Puis j'aimerais ça peut-être faire une autre affaire comme dans le même jeu mot. J'aime ça faire des petits... quelque chose encore dans l'humour. Je pense que le zine me permet de me laisser aller.
Oui, puis te laisser aller créativement, mais est-ce que aussi ça t'a aidé à connecter avec la matérialité de qu'est-ce que tu peux faire... avec la page, qu'est-ce que tu peux faire avec, avec l'agencement de tout ça? Là. Il y a comme beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais
tu sais, c'est comme la... Tu sais, tout ça, tu sais, quand dans le processus, autant de l'écriture, de la communication, de la production, j'ai toujours... Tu sais, je me suis rendu compte que ça me ramenait constamment à la machine, tu sais, qui est certainement une entité qui va pas me... Tu sais, c'est pas parce que j'ai fini le recueil que je vais la laisser. Je pense qu'elle m'habite encore aujourd'hui. Puis je pense que j'aimerais faire d'autres trucs avec elle. Puis ça me ramenait constamment à la machine parce que je me disais, tu sais, il y a la machine Rizzo, il y a la machine ordi, il y a la machine nous en tant qu'être humain, il y a la machine elle-même en tant que personnage. Donc, je trouvais qu'il y avait comme... C'était très ouroborique, là. Ça, genre, tu sais, c'était très... C'était comme un beau cercle qui revient d'ailleurs dans l'usine. Mm. Puis, tu sais, une belle centralité, genre un centre de gravité qui me permet d'avoir l'impression que autant que je peux voir les choses devant moi puis y trouver de l'ordre, qu'aussi de les laisser respirer sur la page puis d'exister dans leur beauté matérielle, tu sais, en soi, là.
Excellent, mais je pense que ça complète bien ce deuxième segment où on a plus abordé ton zine qui s'appelle « La puanteur et la crasse » qui va être disponible en librairie également. Et en première partie, on a parlé de « Je regarde la porno quand je suis triste ». Et au retour de la pause publicitaire à laquelle on va à l'instant, on va pouvoir parler des coups de cœur.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familiale. Je vous invite à écouter mon émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Vous écoutez Zin Tonic à l'antenne de CIBL 101.5 Montréal. En première partie, on a parlé avec Sayaka de son recueil « Je regarde la porno quand je suis triste » et également de son zin « La puanteur et la crasse ». Si vous êtes encore des nôtres, bien, si vous l'écoutez en ce moment, vous arrivez au moment parfait, la cerise sur le sundae. C'est le moment des coups de cœur. Donc, à chaque semaine, je demande à mes invités, d'apporter en fait des zines qui les ont marqués, qui les ont charmés, qui les ont inspirés. Et donc, Sayaka, quel premier titre nous as-tu apporté aujourd'hui?
J'ai apporté le premier zine que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler à Le Guélion, justement. Donc, je pense plus que ce zine y est encore. Je pense qu'on l'a écoulé. Mais donc, ça s'appelle Basic Facts, Volume 1, Break an Egg. A New Abortion Zine, qui a été publié en octobre 2021.
Nice.
Puis, pour la parenthèse qui est « Too much information », c'est vraiment, c'est vraiment drôle parce que, en fait, là, en ce moment, j'ai mes règles. Puis, c'est les premières règles que j'ai depuis mon avortement. Fait que je trouve ça vraiment drôle que je parle de ça aujourd'hui. Justement, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça parle d'expériences personnelles de différentes personnes qui ont eu recours à l'avortement. Puis ça parle aussi beaucoup de, tu sais, comme juste des formations de base qu'il faut savoir, tu sais, pour le avant, le après, tu sais, le aftercare. Puis pour moi, c'était vraiment, tu sais, je me souviens encore de pourquoi je l'ai acheté parce que dans mon pays d'origine, le Salvador, c'est encore quelque chose d'illégal, genre de très, très illégal. Puis il n'y a pas non plus d'informations pour les personnes. Puis souvent, ce que ça amène à des résultats catastrophiques là, dans la population des jeunes personnes, en tout cas au Salvador. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'il existe des formes un peu... comment dire? Je trouve que c'est facile, mettons, avec un zine, de faire de la propagande, c'est de la bonne propagande, mettons, oui. Avec ce zine-là. Oui, genre, oui. Je m'imagine dans un autre monde, ou peut-être que ça se passe en ce moment. Tu sais, je ne suis pas retournée dans mon pays depuis vraiment longtemps, là, mais que peut-être qu'il y a des gens qui se passent des pamphlets similaires, tu sais, avec des informations pour conscientiser les jeunes, surtout, puis donner des espèces de mesures alternatives, tu sais, dans un pays où c'est tellement restrictif, puis c'est ça. Fait que je trouve ce zine vraiment cute et vraiment le fun.
Oui, parce que dans le fond, j'aime ça aussi quand on parle de ce genre de zen-là qui participent au discours, mais qui sont pas littéraires, pas poétiques, mais juste pratiques, parce que c'est ça qui est important aussi.
Ouais, oui, exact.
On a l'Internet aujourd'hui, mais on prend ça tellement pour acquis, parce mm-hmm. que ça peut être tellement facilement limité, en fait. Fait que d'avoir ça qui circule ouais. hors des réseaux principaux, ça aide justement ben, pour les raisons que tu as énoncées, parce que mm-hmm. ces gens-là, ils trouvent pas nécessairement cette information-là.
Exact.
À portée de main. Fait qu'au-delà du côté comme... On a parlé beaucoup d'esthétique en première partie, mais là,
ben
c'est
oui,
vraiment...
c'est ça.
C'est vraiment plus comme... Ouais. Hey, on est une population, puis on a ce besoin-là, puis voici comment...
Exact. Puis à Le Guélion, on a beaucoup de zines, justement, comme, disons... Tu sais, pour moi, le zine est politique, là, mais tu sais, on a beaucoup de zines où le contenu, puis la mission est vraiment dans, justement, la conscientisation ou l'accessibilisation de certaines informations que tous devraient avoir, tous devraient avoir le droit de tenir entre les mains. Donc, c'est vraiment cool. Moi, ça m'inspire vraiment énormément.
Puis, dans le fond, c'est un zine qui est anonyme, qui est comme d'un groupe ou...
Ben, comme, derrière, c'est écrit www.womanonweb.org. Mm. Puis, donc, je pense que c'est un collectif, surtout que comme à l'avant-dernière page, c'est écrit que c'est « Created by Amina, Erin, Jeremy and Rachel mm. ». Donc, tu sais, je pense que c'est ça. C'est un groupe de personnes. Tu sais, puis c'est vraiment comme en mode collage avec témoignages. Puis, tu sais, c'est comme un zine qui n'a pas vraiment de. Tu sais, sans prétention, tu sais, qui est vraiment juste axé sur l'humanité. Je trouve ça vraiment cool.
Oui. Puis, donc, tu l'as nommé un petit peu pourquoi ça t'inspire, mais c'est vraiment là que ça t'interpelle dans le côté social. Puis.
Ouais.
D'humain à humain. Là. C'est vraiment ça, la conversation qui revient aussi dans tes propres, mm-hmm. tes propres écritures.
Mm-hmm.
Puis, ben, je pense que c'est bon pour un premier,
oui?
Premier choix. Yeah. Puis, ben, on peut passer au deuxième choix. Je ne sais pas lequel tu veux.
Mais en fait, on peut. T'sais, d'emblée, je peux dire que ce sont deux zines d'une même artiste dont j'admire vraiment beaucoup le travail. Puis, tu sais, je dirais même que le travail a influencé ma pratique d'écriture et mon imaginaire. Il s'agit de Claire Thompson, une artiste qui fait pas que du zine, qui fait aussi tout comme de l'art visuel at large, du graphisme, qui a une boutique en ligne, si tout le monde est intéressé, c'est clairethompsonart.com. Puis c'est vraiment cool, avant des stickers genre de Anna Nicole Smith, genre, puis comme, je trouve ça juste fou. Puis en fait, le premier zine, en fait, je pense que j'étais tombée là, sur ses zines sur Tumblr, Once Again, We Come Back to the Home. Puis le premier zine, en fait, c'est Lindsay Lohan. Everyone loves you very, 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 very much.
Oui.
Puis sur la page couverture, il y a comme le mugshot de Lindsay Lohan.
Un classique.
Puis, ouais, un classique. Puis en fait, tout le zine, tu sais, comme il est rose. Comme Rose Paparman, qui en plus est mes bonbons préférés. Donc, je trouve ça vraiment cute. Puis, en fait, c'est pas juste un zine cute et esthétique, mais qui a vraiment aussi, tu sais, qui est plus comme un essai là, qu'elle a écrit à l'intérieur, comme un creative non-fiction, genre, où elle parle beaucoup de la pression sur les célébrités. Puis, en fait, les célébrités comme bouc émissaire, là, surtout à l'époque Y2K, là, avec. Tu sais, The Holy Trinity, là, Lindsay Lohan, Britney Spears, Amanda Bynes. Là, je dis Holy Trinity, mais il y en a plein d'autres. Il y a genre Paris Hilton, etc., etc.
Ça dépendait quand ils traînaient ensemble.
Là. C'est ça, tu sais. Puis quand les paparazzis les pognaient, là, genre way too drunk à la sortie de comme une fête ou whatever.
Ouais,
puis, mais tu sais, ça parle vraiment de cette pression-là puis du martyr, tu sais.
Ouais.
Puis Claire Thompson, elle travaille beaucoup à partir de comme le registre du religieux, du sacré. Puis dans ce zine-là, ben, elle part de la notion des martyrs, tu sais. Puis elle parle de prière, puis en fait, est-ce qu'on a le droit de lire des extraits?
Oui, absolument. Okay, en fait, c'est encouragé, j'allais te le proposer.
OK, on est là. Connected. Ben, dans le fond, c'est elle a dit que... C'est ça, elle parle de martyr. Elle dit « Lindsay was to be martyred by pop culture, by fame, pulled apart like Saint Catherine, cut apart like Saint Agnes. » Fait que tu sais, elle parle déjà, elle fait des espèces de liens entre ces figures-là qui sont souvent comme sacralisées, là, qui deviennent presque des mythologies en soi, puis qui respirent vraiment juste pour notre propre entertainment, ce qui est comme vraiment horrible en soi, là, tu sais, le traitement qui est desservi à ces personnes-là. Puis qui, tu sais, c'est toute une réflexion aussi sur la féminité, puis le corps des femmes là, dans l'art du divertissement. Puis à la toute fin, elle fait une prière vraiment incroyable pour Lindsay Lohan.
Nice.
Qui va comme suit. I go to sleep at night and think of Lindsay Lohan. I wake up in the morning and think of Lindsay Lohan. I smoke a cigarette against a brick wall and think of Lindsay Lohan. I do another shot and think of Lindsay Lohan. I look up at the infinite blackness and think of Lindsay Lohan. I wipe wet mascara from my eyes and think of Lindsay Lohan. Et ça va, goes on, je dirais pas tout le truc parce que c'est long. Mais, tu sais, moi, en tant que personne racisée, je me garde tout le temps comme une espèce de critique par rapport à, comme, tu sais, les figures emblématiques de la féminité qui sont comme souvent blanches. Mais ça reste que, je sais pas, Susanna de Claire Thompson a réussi à me faire empathiser malgré tout, puis tu sais, genre, aussi à relate en quelque sorte malgré la blanchité de ces femmes au sort qui est réservé à nos corps, tu sais, puis à leur médiatisation, leur matérialisation par comme le male gaze, notamment chez les paparazzi ou autres, là.
Oui, mais c'est une réflexion que j'ai, c'est un peu dans le personnel, moi aussi, là, too much sharing, mais c'est ça à quel point que les années 2000 ont eu un impact sur notre perception corporelle. Là.
Vraiment.
Vraiment, vraiment, même qu'encore aujourd'hui, là, en fait, c'est dans à quoi je pense, c'est comment la féminité, en fait, est dans ce qu'on cache. Il faut cacher les vergetures, il faut cacher ça, il faut cacher vraiment. Ça, c'est tout le temps. Il faut cacher les poils, il faut cacher la silhouette qui ne serait pas mince. Fait que c'est de cette angoisse-là, de, est-ce que ça dépasse de moi? Est-ce que ce qui est non féminin dépasse de moi et donc annule ma féminité alors que je suis une personne qui est née femme? On dirait que en tout cas, il y a tout ça, puis on dirait que ça vient vraiment des années 2000 parce que je pense juste aux pantalons de taille basse, tu sais, qui dévoilent tout, puis que si t'as pas un ventre plat, ben c'est impossible. En tout cas, il y a comme tout ça qui rentre là-dedans.
Puis... C'est important à mentionner parce que, tu sais, par exemple, dans le zine, il y a genre tout des clichés, là, pognés dans le pire moment, là. Genre, c'est toutes des photos de genre Lindsay puis Paris, genre drunk AF, en train de faire des conneries. Mais... Tu sais, ça reste quand même des femmes qui correspondent aux idéaux de beauté. Fait que même si elles sont comme complètement scrap, they still look pretty in the eye of media. Genre, tu sais, fait que ça crée des espèces d'attentes. Ça crée vraiment comme des... C'est un horizon d'attente absolument impossible et juste cruel.
Ben oui, que même dans une posture qui est désavantageuse,
vulnérable,
faut que tu restes désirable.
C'est fucked up.
Oui, puis en fait, ça rejoint vraiment les réflexions que je sais pas si c'est le post Y2K qui nous rentre dedans, puis la montée du masculinisme.
Le post Y2K, oh my God, on est rendu là!
Post-ironie, mais. Oui, fait donc, ça t'a vraiment influencé au niveau, en fait, de. Comment est-ce que tu penses que ça s'est, en fait. Je vais reformuler ma question. Est-ce que tu penses que ces réflexions-là, ça s'est inscrit un peu dans soit ton zine, soit ton recueil, en fait?
Ben, je pense que c'est comme l'univers de Claire Thompson en général, tu sais, parce que là, elle est allée puiser beaucoup sur, tu sais, dans Internet, là, parce que Y2K lives in Internet. Puis, tu sais, ce sont toutes des images qu'on peut encore retrouver. Tu sais, cette vulnérabilité-là est encore retrouvée en ligne. Mais je pense que j'ai. Tu sais, c'est comme les liens qu'elle fait entre ce qui existe dans les médias puis ce qui existe dans les univers religieux, tu sais, comme pour venir aux martyrs. Tu sais, c'est comme elle travaille vraiment les vocabulaires religieux puis elle les rend comme contemporains, tu sais, puis elle réfléchit aussi par rapport à la féminité puis à la violence faite au corps. Puis je trouve ça, en tout cas, moi, c'est son traitement autant de l'image que du langage, mais aussi des référents, je pense. C'est référents qui m'inspirent beaucoup.
Oui, et puis en fait, il y a un deuxième zine, en fait, de la même personne que tu as apporté.
Ouais, qui est mon préféré.
Oh yeah!
Qui s'appelle Humiliation Liturgy, qui pourrait... J'aurais tellement de la misère à décrire ce zine, juste parce que je pense que il faut le lire, là, mais je ne sais plus s'il existe, parce qu'en arrière, c'est écrit qu'au tirage, c'est 15 sur 222, mais comme je l'ai acheté, ça fait vraiment longtemps. Enfin, je pense que comme... Sorry. It's limited edition. Mais ça parle de désir queer, de corps queer, puis... mais tu sais, vraiment dans la suppliance, là, vraiment genre dans se mettre à genoux et prier pour l'amour, tu sais, comme prier et espérer que genre une personne puisse... nous regarder, nous voir, puis elle compare le corps de son amante à genre le corps de Jésus-Christ. Puis je trouve ça, tu sais, elle lui dit « I will wash your feet, I will cling to you until revelation ». Puis je trouve ça, elle dit aussi « I know I love you because I cannot stop imagining you crucified, imagining you as the central heart in another set of mythos ». Puis je trouve ça juste vraiment beau, puis encore là, tu sais, je suis vraiment obnubilée par... Le registre du religieux, j'ai beaucoup été inspirée aussi par la Bible. Lol. Mais tu sais, dans le bon sens du terme, où je pense que je l'ai déconstruit, puis je pense que ça m'a permis de comme creuser mon intérieur puis de le décorer. Mais c'est ça, j'aime beaucoup. On est vraiment dans quelque chose de très sexuel et organique, palpable. On est vraiment comme le corps déchu du Christ qui est comme apprécié, qui est aimé, qui, pour lequel on a beaucoup de tendresse pour sa vulnérabilité, justement, mais comme pour toutes les blessures qui parcellent son corps. Puis je trouve que dans le désir queer, ça me parlait énormément. T'sais. Donc, ça m'a vraiment beaucoup marqué.
Oui, ben c'est vraiment une personne à découvrir. Est-ce que tu avais nommé son site Internet, c'est ça? Hein?
Ouais. Puis, elle a aussi un Instagram.
Est-ce que tu sais si elle a fait des zines récemment, cette personne-là?
Oui, elle a genre plusieurs zines.
OK.
Elle a plusieurs zines. Puis, tu sais, à la quatrième de couverture, là, l'image est fucked up. Mm. C'est comme une espèce de Ouroboros dragon médiéval. Puis, à l'intérieur, une main qui ouvre un vagin. Mm. Un peu à la... Tu sais, comme meilleur que Gustave Courbet, là. Mais genre, pour vrai, je trouve ça fou. En tout cas, genre, tu sais... Puis, tu sais, ça revient un peu aussi à ce que moi, j'exploite dans mon imaginaire, autant dans le zine que dans le recueil, là.
La limite entre le blasphématoire puis le sacré. Oui.
Exact.
J'adore. Puis, est-ce que tu voulais parler, en fait, du dernier que tu as apporté?
Ah oui, le zine, pas zine, genre, c'est ça. C'est, on est, je pense qu'on parlait là, avec Hélène, on est d'accord que c'est comme une espèce de ovni du zine. Peux-tu dire ça? Bref, il s'agit de le pamphlet publié par, s'appelle New Directions, qui est une maison d'édition qui publie beaucoup de poésie et autres. Puis dans le fond, il s'agit d'une impression de A Musical Hell de Alejandra Pizarnik, qui est une poète que j'adore énormément et que je cite dans La puanteur et la crasse. En fait, la raison pour laquelle on parle de ovni littéraire, quand on parle de est-ce que c'est un zine ou non, c'est parce qu'il s'agit quand même d'une maison d'édition qui est quand même assez comme établie, là, qui quand même a beaucoup d'argent. Puis il s'agit aussi d'un zine qui a été publié dans le cadre d'une collection où la maison d'édition a décidé de pamphlétiser certains textes qui sont considérés, selon leur comité de rédaction, de canoniques. Mm. Mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas, moi, A Musical Hell, c'est mon ouvrage préféré d'Alejandra Pizarnik. Là, on rentre pas au paradis, là, on rentre vraiment en descend, en enfer. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a autant de place pour le texte dans son écriture originale, là, en espagnol, puis pour sa traduction en anglais juste à côté. Ce que j'ai voulu aussi faire dans le zine de L'Empianteur et la crosse, là, au début, je me suis dit, ah, je vais laisser le texte en espagnol, puis les gens vont devoir chercher, traduire, puis faire l'effort. T'sais. Mais finalement, j'ai décidé de le mettre à côté. T'sais. Puis je trouve qu'il y a quand même une beauté de voir. C'est comme moi, je l'ai lu pour la première fois, ce pamphlet-là. J'aimais ça le lire. T'sais, j'ai l'impression que quand même, si c'est une traduction, les mots, puis les phrases, puis les univers sont pas similaires, t'sais. Puis il y a une beauté là-dedans, dans cette espèce de les échos entre les deux langues. Fait que, ouais.
Est-ce que tu voulais lire un extrait en espagnol?
Oh my God, avec mon gros accent dégueulasse. Sure, why not? Je vais prendre un petit poème qui s'intitule « Cold in Hand Blues ». ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo.
Excellent.
Ce poème.
Oui.
De Alejandra Pizarnik.
Puis, comment est-ce que tu es tombée, en fait, sur ce pamphlet-là par hasard ou tu cherchais, en fait, un peu des textes de cette autoriste-là?
Bien, en fait, à Le Guélion, c'est moi qui s'occupe des commandes en anglais.
OK.
Fait comme toute la collection en anglais, c'est moi. Puis, ce que ça comprend comme travail, c'est de faire beaucoup de recherches, c'est pour soit comme diversifier le catalogue qu'on a déjà, la collection qu'on a déjà, pour essayer de trouver des espèces de pépites d'or comme celle-là. Donc, souvent, j'identifie mes maisons d'édition préférées, puis je vais comme regarder c'est quoi les nouvelles choses qui ont été faites ou c'est quoi les choses les plus anciennes qui ont été faites. Puis Alejandra Pizarnik, c'est une autrice que j'admire vraiment beaucoup puis que j'adore. Donc, j'essaie de rester à l'affût de tout ce qui a été fait puis de tout ce qui est fait. Puis j'essaie d'avoir tout à Le Guélion. Donc, comme j'ai fait de la recherche pour le catalogue, mais pour moi aussi. Puis finalement, je suis tombée là-dessus. Puis on le tient maintenant à Le Guélion si jamais quelqu'un veut l'avoir.
excellent. Je dis souvent excellent dans l'émission, ça ne changera jamais. J'ai dit de ne pas le dire. Je me suis fait la réflexion de ne pas le dire aujourd'hui, puis je l'ai dit deux fois. Fait que si ça fait longtemps que vous écoutez Zen Tonic, ça ne partira jamais, n'inquiétez-vous pas. Puis, ben, pour conclure un peu mes dernières questions, ça serait, tu en as parlé un petit peu au fur et à mesure, tu sais, des personnes mères qui ont aidé à enfanter ton recueil, mais est-ce que tu as une autre personne qui t'a inspirée que tu n'as pas, pas parlé, comme une source d'inspiration qui pourrait compléter, en fait, cette démarche qu'on a survolée?
Je pense j'ai parlé de Simone Veil, de Donna Haraway, d'Alejandra Pizarnik, des nonnes mystiques genre Hildegard de Bingen puis Julienne de Norwich, mais il y a deux autres grandes femmes que je cite, en fait trois autres grandes femmes que je cite dans mon recueil. Il s'agit de l'unique et la grandiose Clarice Lispector, que pourrait, si vous n'avez pas vu Clarice, je vous conseille tellement, puis je vous conseillerais de commencer avec Agua Viva. Qui vraiment dans... Moi, là, quand j'essaie de conseiller Clarice Lispector à la librairie, j'ai trouvé comme la formule magique. Puis c'est comme si tu fumes un gros bat avec ta meilleure amie, puis que genre, elle fait juste word vomit, puis tu comprends pas qu'est-ce qu'elle dit, mais c'est beau, c'est ça.
Wow, ça me parle.
C'est genre ça que je veux. Il y a peut-être des gens qui vont genre vraiment insulter, mais it's a good thing. C'est un compliment.
Oui.
Les deux autres personnes que je cite dans mon recueil, c'est Lucie Riguiré, puis Yulia Kristeva. Qui sont deux femmes philosophes, linguistes. Puis je pense que j'irais plutôt vers Yulia Kristeva pour l'abjection, qui est quelque chose que j'ai voulu aussi beaucoup travailler pour le recueil. La femme abjecte, là. C'est que, genre, pour moi, la machine, c'était ça, là. C'était une femme abjecte qui avait des péchés beaucoup plus grands que moi, puis qui s'en foutait carrément, puis qui était tout à fait ravissante dans son péché.
Oui, puis est-ce que ça m'a popé comme question, parce qu'on a parlé d'autres projets de zine, mais est-ce que tu as d'autres projets de recueil de poésie? Est-ce que tu continues d'en écrire ou c'est comme trop récent le lancement?
J'avoue que depuis que mon livre existe, je suis comme un peu en dissociation. Mais avant que le livre sorte, je travaillais sur mon roman avec God Knows What Energy. Là. Genre, j'étais comme, je travaillais sur un roman, tu sais, c'est comme mon projet. Ça serait mon prochain projet. Mais là, depuis que mon livre est sorti, on dirait que je sais même pas si je suis capable d'écrire en ce moment. Je pense qu'il faut se laisser digérer le texte. Puis j'ai beaucoup appris, tu sais, par exemple, la première leçon que j'ai appris avec le recueil, c'est que c'est pas parce que je l'avais écrit que je savais le lire. That was harsh. Ça, c'était comme mon ego en a pris un coup. Mais en ce moment, je suis plus comme dans une période d'adaptation puis d'apprentissage par rapport à mon recueil. Tu sais, je le laisse me guider puis me montrer de nouvelles choses puis de me laisser le temps. Mais des fois, je pense à mon roman. Des fois, il apparaît dans mes rêves. Genre, il y a comme un cheval dans mon roman. Il y a encore le cheval qui revient. Je suis une horse girl, I guess.
Ouais, moi aussi, 100%.
Enfin, ouais, c'est ça, on les aime. Puis, fait que des fois, j'y pense. Puis cet été, je planifiais d'aller assister... une ferme dans l'accouchage, genre assister une jument dans son accouchage pour mon recueil, pour mon roman. Fait que c'est ça. Donc j'ai comme des plans.
Excellent. Puis est-ce qu'il y a quelque chose du recueil qu'on n'a pas abordé puis que tu voudrais compléter avec ça?
Je pense que tu as posé des excellentes questions, honnêtement. Puis je crois que une chose peut-être que j'aimerais comme dire, qui n'est pas nécessairement une question, c'est plus que moi, j'ai appris dans mon recueil la beauté de se perdre. Là. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose nécessairement de ne pas tout comprendre à premier coup. Puis, je pense que mon recueil, c'est quelque chose que j'ai voulu écrire sous forme d'expérience très immersive. Là. C'était, je voulais que ça soit comme presque onirique. Là. Je voulais vraiment étourdir les lectrices. Donc, puis j'ai laissé aussi plein de petits secrets dans le recueil. Il y a des petits trésors, il y a des petites références pour justement essayer de trouver quelque chose de nouveau à chaque fois qu'on le lit. Puis aussi, c'est correct là, de lire juste une fois puis pas y retourner puis pas aimer. Là, genre, c'est vraiment chill. Là. Genre, moi, je prends rien personnel. Au contraire, j'invite les gens à se perdre puis à essayer de toucher la main de Dieu ou celle de la machine.
Bon, mais je pense que c'est un mot de la fin vraiment à point pour ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, ben, merci d'avoir été des nôtres.
Merci à toi.
Merci, ça fait plaisir. Merci, Sayaka. Puis, ben, merci à CIBL de nous accueillir dans leur plage horaire. Merci à Wilfred pour la mise en onde. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on se laisse sur la chanson « Emoji de fraise » du groupe Pataugeoire.
jour ou la nuit, t'es mon cœur, mon thème à brille-moi sans inverse, t'es pas naïo, dans les guerres à côté.
Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabane à Contes.